« Ne buvez pas le vin, sœur !» lui chuchota l'œuf, tandis qu'il patientait dans la salle d'audience en compagnie du septon. Les dalles de pierre du sol étaient recouvertes de jonchées capiteuses, les murs tendus de tapisseries représentant des scènes de bataille et de tournois. Dunk émit un reniflement. « Elle se soucie comme d'une guigne de m'empoisonner, » chuchota-t-il en retour. « Je ne suis à ses yeux qu'un copieux balourd, farci de purée de pois entre les oreilles, figure-toi. »«
Il se trouve d'aventure que ma belle-sœur aime beaucoup la purée de pois, »
déclara Septon Sefton, qui reparut au même instant, porteur d'un flacon de vin, d'une carafe d'eau et de trois coupes.
« Oui, oui, j'ai entendu, je suis obèse, mais pas sourd. »
Il emplit de vin deux des coupes et la troisième d'eau. Cette dernière, il la remit à l'œuf, qui la contempla longuement d'un air soupçonneux, avant de la repousser de côté. Le septon n'y prit pas garde.
« Ceci est un cru de la treille, » expliquait-il à Dunk, « d'une extrême délicatesse, et le poison lui confère un piquant tout particulier. »
Il fit un clin d'œil à l'œuf.
« Je touche rarement aux fruits de la grappe, mais c'est ce que j'ai entendu dire. »
Il tendit une coupe à Dunk. Le vin était épais et sucré, mais Dunk le sirota allègrement, après seulement toutefois que leur hôte eut lampé la moitié du sien en trois lipées goulues et glougloutantes. L'œuf croisa les bras et persista à ignorer son eau.
« Elle aime vraiment beaucoup la purée de pois, » repartit le septon. « Et votre personne de même, sœur. Je suis bien placé pour connaître ma belle-sœur. Dès que je vous ai vue dans la cour, j'ai presque espéré que vous seriez quelque prétendant venu de Port-Réal rechercher la main de madame. »
Dunk plissa son front. « Comment avez-vous su que j'étais originaire de Port-Réal, Septon ?»«
Les Port-Réalais ont une certaine façon de parler. »
Le religieux s'envoya une nouvelle gorgée, la fit clapoter dans sa bouche, avala, puis poussa un soupir d'extase.
« J'ai servi là-bas nombre d'années comme assistant de notre grand Septon, au grand septuaire de Baelor. »
Il poussa cette fois un soupir chagrin.
« Ah, vous ne reconnaîtriez pas la ville depuis le printemps. Les incendies l'ont tellement changée. Un quart des maisons partis en fumée, un autre quart désert. Les rats ont disparu aussi. C'est l'aspect des choses le plus extravagant. Je ne me serais jamais imaginé voir un jour une cité privée de rats. »
Dunk en avait déjà eu vent lui-même. « Vous y étiez pendant que sévissait le fléau de printemps ?»«
Oh, certes, une période abominable, sœur, abominable. Au petit matin, de solides gaillards s'éveillaient en pleine forme et ils étaient morts au crépuscule. Il en mourait tant et si vite qu'on n'avait pas le loisir de les enterrer. À la place, on les empilait à fosse dragon, et quand le monceau de cadavres y atteignait 10 pieds de profondeur, Lord Rivers ordonnait aux pyromanciens de les carboniser. L'éclat du brasier illuminait les baies vitrées de la même manière que lorsqu'au temps jadis des dragons vivants nichaient encore sous le dôme. La nuit, le flamboiement se voyait de tous les coins de la ville. Le flamboiement vert sombre du feu grégeois. La couleur verte n'a pas arrêté de me hanter jusqu'à aujourd'hui. On assure que le printemps fut affreux à Port-Lanis et pire encore à Villevieille, mais il terrassa 4 habitants sur 10 à Port-Réal. Ni les jeunes, ni les vieux, personne ne fut épargné, ni les riches, ni les pauvres, ni les grands, ni les humbles. Notre cher grand Septon fut emporté, lui, la propre voix des dieux sur terre, avec un tiers de leur sainteté et la quasi-totalité de nos sœurs silencieuses. Sa Majesté, le roi d'Aéron, le doux Mataris et le fier Valar, la main du roi. Oh, quelle période abominable ce fut là! Vers la fin, la moitié de la ville adressait ses prières aux dieux étrangers. Il se resservit. Et vous, sœur, où vous trouviez-vous à l'époque?
À Dorne, répondit Dunk.
Grâces en soient rendues à la miséricorde de la déesse mère dans ce cas.
Le maudit fléau de printemps n'avait jamais touché Dorne, peut-être parce que les Dorniens avaient fermé leurs frontières et leurs ports, ainsi que l'avaient fait les Arryn pour le Val, qui s'en était tiré indemne lui aussi.
Tous ces récits de mort suffiraient à vous laisser passer le goût du vin, mais il est de plus en plus difficile de se remonter le moral dans une époque semblable à celle que nous vivons. La sécheresse s'opiniâtre en dépit de toutes nos prières. Le bois du roi est une prodigieuse boîte d'amadou, et les incendies y font rage nuit et jour. Égracier et les fils de Daémon Fenoir trament des complots à Tiroche, et les sèches de Dagon Greyjoy sillonnent la mer occidentale comme une meute de loups, poussant leur razzia jusqu'aussi loin au sud que la Treille. Ils ont emporté la moitié des biens de Belle-Île, à ce qu'on dit, plus une centaine de femmes. Lord Farman est en train de réparer ses défenses, mais je suis frappé par la similitude de ses précautions avec celle de l'homme qui renferme dans une ceinture de chasteté sa fille enceinte, quand elle a déjà la bedaine aussi joliment distendue que la mienne. Lord Bracken se meurt à petit feu sur le trident, et l'aîné de ses fils a péri lors du printemps, ce qui signifie qu'il aura forcément sœur Otto pour successeur. Et comme jamais les Nerbosques ne digéreront d'avoir pour voisin la brute de Bracken, la guerre finira fatalement par éclater.
L'antique hostilité que se vouaient Bracken et Nerbosques était connue de Dunk. Leur suzerain ne saura-t-il pas les contraindre à la paix?
Hélas, répliqua Septon Sefton, Lord Tully est un garçonnet de 8 ans. Et il n'a que des femmes pour entourage. Vive Zeg n'y fera guère, et le roi Aerys moins encore, à moins qu'un maître n'y consacre un traité, ce sujet-là risque d'échapper entièrement à la connaissance de sa majesté.
Il est hautement improbable que Lord Rivers laisse aucun des Bracken accéder auprès de sa majesté.
Gardez-vous d'omettre que notre main du roi est à demi Nerbosque par sa naissance. S'il agit le moins du monde, ce sera uniquement pour aider ses cousins à réduire la brute aux abois. La déesse mère a imposé sa marque sur Lord Rivers le jour de sa venue au monde, et Aigracier lui en a imposé une seconde sur le champ de bataille d'Herbe Rouge.
Dunk n'ignorait pas qu'il entendait par l'affreux sanglant, dont Brynden Rivers était le véritable patronyme de bâtardise, puisqu'il avait eu pour mère une Nerbosque et pour père adultérin le roi Aegon IV. Après avoir lampé son vin, le Septon reprit, intarissable.
« Pour ce qui est de sa majesté Aerys, elle s'intéresse bien plus au parchemin de jadis et aux prophéties poussiéreuses qu'aux lords et aux lois. Elle ne se remue pas même pour s'engendrer un héritier. La reine Alinor a beau multiplier ses oraisons quotidiennes au grand septuaire et supplier la déesse mère de lui accorder la grâce d'un enfant, son pucelage n'en demeure pas moins intact. Aerys se confine dans ses propres appartements et, s'il faut en croire les commérages, il se plairait à prendre plus volontiers un bouquin dans sa couche que n'importe quelle femme. »
Il emplit à nouveau sa coupe.
« N'allez pas vous leurrer, c'est Lord Rivers qui nous gouverne, avec ses sortilèges et ses mouchards. Il n'y a personne pour s'opposer à lui. Le prince Maïkar boude à l'estival, s'y abreuvant de ses griefs contre son royal frère. Le prince Raegal est aussi docile que folle, et ses enfants sont... bref, des enfants. Les amis et les favoris de Lord Rivers occupent toutes les places. Les seigneurs du conseil restreint lui lèchent la main, et cette espèce de nouveau grand maître que nous avons barbote autant que lui dans la sorcellerie. Le donjon rouge est aux mains d'une garnison de dents de freux, et nul au monde ne voit le roi sans son autorisation. »
Dunk se trémoussa dans son fauteuil, on ne peut plus mal à l'aise. « Combien Dieu, Lord Freux Sanglant, possède-t-il ? 1000 et rien qu'un. » Il se prit à espérer que la main du roi n'ait pas 1000 oreilles et rien qu'une. Certains des propos que prononçait Septon Sefton fleuraient la félonie. Et il jeta un coup d'œil furtif à l'œuf pour voir de quelle façon il prenait tout cela. Le gamin luttait manifestement de toutes ses forces pour tenir sa langue. Leur compagnon se leva pesamment.
« Ma belle-sœur va encore se faire désirer un bon moment. À l'instar de toutes les grandes dames, elle doit trouver que les 10 premières robes qu'elle essaie ne sied pas à son humeur. Que diriez-vous de reprendre une goutte de vin ?»
Sans se soucier d'attendre une réponse, il resservit les deux coupes. « La dame sur l'identité de laquelle je me suis mépris tout à l'heure, » aventura Dunk, afin de parler coûte que coûte d'autre chose, « c'est votre propre sœur ?»«
Nous sommes tous enfants des 7, sœur, mais à part cela, pauvre de moi, non. » Lady Ellicent était la sœur de sœur Roland Uffering, le 4e époux de Lady Rohan, décédé lors du printemps. Mon frère en était le 3e, sœur Simon Staunton, qui eut le malheur épouvantable de s'étouffer sur un os de poulet. Froide douve grouille de revenant, forcé d'en convenir, les maris meurent, mais leurs parents demeurent, aussi calamiteux que des sauterelles roses et dodues accoutrées de velours et de soie, afin de déguster les vins de madame et ses sucreries. Il s'épongea la bouche. Et néanmoins, elle doit absolument se remarier, et le plus tôt sera le mieux.
« Doit absolument ?» fit Dunk.
« Le testament du seigneur son père l'exige. Lord Wyman voulait des petits-fils pour assurer la continuité de sa lignée. Lorsqu'il est tombé malade, il a prétendu lui faire épouser le double Flandrin pour pouvoir mourir avec la certitude qu'elle dispose d'un gaillard solide pour la protéger. Mais Rohan a refusé tout net. Ainsi le doux sire s'en est-il vengé dans ses dernières volontés. Si elle n'est toujours pas remariée lors du second anniversaire de la disparition, dit celui, Froide Douve et tous ses domaines échéreront à son cousin Wendell. Peut-être aurez-vous entrevu ce dernier dans la cour, hein, un homme courtaud, le col agrémenté d'un goitre, et qui se signale par une généreuse propension à la flatulence. Encore que je sois malvenu de faire état de ce dernier point, puisque je suis moi-même affligé d'un excès de vent. Enfin, advienne que pourra. Sir Wendell est stupide et cupide, mais dame son épousée, non seulement la sœur de Lord Rowan, mais aussi... diantrement féconde. On ne saurait lui dénier cette vertu-là. Elle m'ébat aussi souvent qu'il pète. Leurs fils le valent en vilenie, leurs filles les surclassent. Et ils se sont tous mis à compter les jours. Lord Rowan a soutenu l'exécution du testament, si bien que notre bonne dame n'a plus pour se décider que jusqu'à la nouvelle lune.
« Et pourquoi a-t-elle attendu si longtemps ?» s'étonna Dunk à haute voix. Le septon haussa les épaules.
« À parler sans phare, il y a eu pénurie de prétendants. Ma belle-sœur n'est pas précisément d'un aspect répugnant, vous l'aurez remarqué. Et un bon gros château assorti de vastes domaines ajoute à ses charmes. Vous penseriez par conséquent que tout un essaim de cadets de bonne famille ou de chevaliers sans terre bourdonnerait comme des mouches autour de sa seigneurie. Et vous feriez erreur. Les quatre époux défunts les rendent circonspects, et il y a des gens pour soutenir qu'elle est stérile en plus. Oh, quand ils sont sûrs du moins qu'elle n'entende pas, sauf s'ils aspirent à jouir du confort d'une cage à corbeaux. Elle a porté deux enfants à terme, un garçon et une fille, mais ils n'ont ni l'un ni l'autre assez vécu pour fêter un anniversaire. Quant aux rares galants qui ne se laissent point rebuter par les ragots d'empoisonnement et de sorcellerie, ils renâclent à se frotter au double flandrin. Lord Wyman l'a en effet chargé sur son lit de mort de défendre sa fille contre des soupirants inacceptables, tâche qu'il a pris à cœur d'appliquer à tous les soupirants. Quiconque entendrait obtenir la main de Lady Rohan serait d'abord obligé d'affronter son épée à lui.
Il acheva son vin et reposa sa coupe.
Cela ne revient pas à dire pour autant qu'il ne s'en est présenté aucun. Clayton Caswell et Simon Bonleu se sont montrés les plus persévérants. Mais leur passion s'adressait selon toute apparence à ses biens plus qu'à sa personne. S'il me fallait à tout prix gager, je miserais de préférence sur Gérald Lannister. Il en est encore à faire son apparition, mais on dit qu'il est d'une blondeur d'or, plein d'à-propos, qu'il a plus de 6 pieds de haut, et que ses lettres occupent infiniment les dix tissiers. La dame en question se tenait sur le seuil, flanquée d'un jeune maître dont le trait le plus saillant était un immense nez crochu. « Vous perdriez votre pari, beau frère. Gérald ne délaissera jamais de bon gré les plaisirs de Port-Lanny et la splendeur de Castral Rock pour une seigneurie de rien du tout. » Il exerce plus d'influence en sa qualité de frère et de conseiller de Lord Thibault qu'il n'en pourrait jamais espérer en celle de mon époux. Quant aux autres, Sir Simon aurait à vendre la moitié de mes possessions pour payer ses dettes, et Sir Clayton tremble comme la feuille lorsque par hasard le double Flandrin condescend à lorgner de son côté. En outre, il est plus joli que moi. « Et pour ce qui est de vous, Septon, vous avez la plus grande gueule de Westeros. Et une grosse bedaine réclame une grande gueule, rétorqua Septon pas décontenancé pour un sol. Sans quoi, elle aurait au fait de devenir toute menée. « C'est vous, la veuve rouge ?» demanda l'œuf d'un air abasourdi. « Je suis presque aussi haut que vous. »
Un autre garçon m'a fait la même observation il n'y a pas 6 mois. Je l'ai expédié sur le chevalet pour le rehausser.
Une fois que Lady Rohan se fut installée sur le haut siège de l'estrade, elle ramena sa natte en avant par-dessus son épaule gauche. Celle-ci était d'une telle longueur que l'extrémité s'enleva dans son giron, comme un chat assoupi.
Sir Duncan, je n'aurais pas dû vous taquiner dans la cour, alors que vous déployiez tant d'efforts pour vous montrer gracieux. C'est simplement que vous aviez rougi de façon si violente. Il ne se trouvait donc pas de jeune fille pour vous taquiner dans le village où vous avez si prodigieusement grandi.
C'était Port-Réal, le village. Il ne mentionna pas Cupussier. Il s'y trouvait bien des jeunes filles, mais le genre de taquinerie qui se pratiquait à Cupussier avait plutôt des fois de quoi vous couper la chic.
Je présume qu'elles avaient peur de vous taquiner. Lady Rohan caressa sa natte. Sans doute votre taille les terrifiait-elle. Ne prenez pas ombrage de l'attitude de Lady Ellicent, je vous en conjure. Ma belle-sœur est une créature un peu simplette, mais totalement dépourvue de malignité. En dépit de toutes ses bondieuseries, elle serait incapable de s'habiller elle-même sans le secours de ses septas.
Elle n'était pour rien dans ce qui s'est passé. Je suis le seul coupable de la méprise.
Vous mentez le plus galamment du monde.
Je sais que tout le mal venait de Sir Lucas.
La cruauté fait partie de son caractère et vous l'avez offensé au premier regard.
Comment cela ? S'ébahit Dunk. Je ne lui ai fait aucun mal de ma vie.
Elle sourit d'un sourire qui le fit désirer qu'elle se montre plus explicite. Je vous ai vu vous tenir devant lui. Vous le surpassez d'une main, ou bien peu s'en faut.
Cela faisait belle lurette que Sir Lucas n'avait croisé personne qu'il ne pût toiser de son haut.
Quel âge avez-vous, sœur ?
Presque 20 ans, ne déplaise à madame.
Dunk aimait bien faire sonner 20, quitte à se vieillir d'une année selon toute probabilité, si ce n'est de 2. Là-dessus, personne ne savait à quoi s'en tenir au juste, et lui moins que quiconque. Il devait avoir eu une mère et un père comme tout le monde, mais il ne les avait jamais connus, même pas de nom.
Et nul à Cupussier ne s'était jamais soucié outre mesure de chercher à savoir ni quand il était né, ni de qui.
Êtes-vous aussi fort que vous en avez l'air ?
J'ai l'air fort comment, madame ?
Oh, suffisamment fort pour enquiquiner Sir Lucas. S'il est gouverneur ici, ce n'est pas de mon fait. Je l'ai hérité de mon père au même titre que Froide-Douve. Avez-vous accédé à la chevalerie sur un champ de bataille, Sir Duncan ? Vos façons de parler suggère que vous n'êtes pas né de sang noble. Si vous voulez bien me pardonner de m'exprimer ainsi.
Je suis né d'un sang de caniveau, faillit-il dire. Un chevalier errant, nommé Sir Arlan de l'Arbre-Sous, m'a pris à son service pour lui tenir lieu d'écuyer quand j'étais encore tout mioche. C'est lui qui m'a enseigné la chevalerie et les arts de la guerre.
Et c'est ce même Sir Arlan qui vous a fait chevalier ?
Dunk agita les pieds avec embarras. L'une de ses bottes était à demi délacée, vit-il. Il n'y avait personne de mieux placé que lui pour le faire.
Où se trouve actuellement Sir Arlan ?
Il est mort. Il releva les yeux. Sa botte, il pourrait toujours la relasser plus tard. Je l'ai enterré au flanc d'une colline.